plus Noureddine Senadji et son mandat. Ensuite, je passe la parole à Nicolas Médraud pour la création de l'Observatoire de la scolarité.
En plus de l'heure tardive à laquelle on aborde cette délibération, il convient de reconnaître qu'elle arrive à un moment particulièrement difficile pour la communauté éducative, avec les dernières informations qui sont tombées en fin de semaine dernière sur les projets du gouvernement relatifs aux suppressions de postes. Donc, à minima, c'est 16 000 postes qui disparaîtront à la rentrée prochaine, venant s'ajouter aux quelques 50 000 déjà amputés depuis 4 ans. Ce sont les enseignants spécialisés qui ne seront plus là pour remettre sur les rails des écoliers en difficulté. Ce sont des psychologues scolaires vers lesquels les familles ne pourront plus se tourner. Ce sont des professeurs confrontés à des classes surchargées. Ce sont des parents qui n'auront plus le choix, comme c'est déjà effectif à Saint-Ouen, de mettre leur enfant maternel avant l'âge de 3 ans. L'ambition, longtemps portée comme un consensus pour l'école dans notre pays, est abandonnée. Celle d'une école émancipatrice, se donnant les moyens d'offrir à chaque enfant les clés du savoir et d'une citoyenneté éclairée. Les suppressions de postes annoncées apparaissent comme une étape décisive dans la mise en place d'une école calquée sur le modèle de l'entreprise, où l'enseignant est réduit à être un employé docile et l'élève un produit adapté à la demande du marché. Je me permets de rappeler ici que lors du référendum sur le projet de constitution européenne, c'est cette marchandisation, notamment du secteur de l'éducation, que les Français avaient repoussée, qu'on nous a fait rentrer un coup par la porte et de nouveau aujourd'hui par la fenêtre. Éduquer, c'est quand même transmettre, c'est être un passeur de connaissances et de savoir. Ça demande qu'il y ait de la médiation et de la présence humaine. Comment enseigner sans enseignants et personnel de l'éducation formé, sans conditions d'enseignement adaptées à son époque? Ou ceux qui demandent une meilleure école, dont nous sommes, sont ceux qui demandent des moyens pour que tous les enfants réussissent leur scolarité, pour que tous les jeunes sortent du système éducatif avec une qualification. C'est pourquoi cette délibération ce soir prend un éclairage particulier, mais en même temps, je considère qu'il est important de la discuter et de l'adopter, parce que nous avons décidé, avec l'éducation nationale, et il a fallu beaucoup de force et de conviction, de mettre ensemble un certain nombre d'éléments que nous n'avons pas forcément aujourd'hui pour réfléchir et comprendre ce qui est à l'œuvre dans notre ville quant aux résultats scolaires des enfants, le comportement des familles, les aides municipales qui sont importantes, et de comprendre ensemble et de savoir si nous devons bouger un certain nombre de choses et qu'est-ce que nous sommes capables d'influer. Alors bien sûr, il n'y a pas d'illusion sur le fait que l'Observatoire de la scolarité et de la réussite pourrait contrecarrer à lui tout seul cette politique assez provocatrice qui s'accélère dans la mise en œuvre de la réduction des politiques publiques et où l'éducation, au même titre que la police, que la santé, que les fonctionnaires d'État, que la fusion ANPE, Pôle emploi aujourd'hui, et ANPE ACEDIC, que les CAF, qui ont des conséquences dramatiques sur l'ensemble des populations. Aujourd'hui, l'éducation, il n'y a pas de suppression de postes, cher ami. Donc, erreur, docteur. Le diagnostic est mauvais, de votre point de vue. Donc, voilà. Donc, il nous a semblé important de pouvoir continuer ce travail, d'autant plus que pour le poursuivre avec l'éducation nationale et notre inspecteur de circonscription, qui est assez volontaire pour y collaborer. C'est un passage obligé ce soir d'adopter cette délibération au Conseil pour pouvoir aller plus avant dans la mise en œuvre de ce que nous avons souhaité faire. Voilà, je vous remercie.
Bien, Henri Le Lorrain, Lias Kemach, 1, 2, 3, 4, 5, où là, ça se lève de partout.
Merci, Madame le Maire, mes chers collègues. Moi, je voudrais d'abord je voudrais d'abord remercier Nicole pour son exposé et être assez content au nom du groupe socialiste que la municipalité enfin s'attaque à cette question qui est celle de la scolarité, de la réussite scolaire et partant des différentes problématiques qui pèsent aujourd'hui sur la scolarité des enfants et sur les écoles en général à Saint-Ouen. Je pense qu'aujourd'hui, il y a différents constats qui ont déjà été faits et desquels il faut partir. On aurait aimé au groupe socialiste avoir peut-être une délibération beaucoup plus volontaire et beaucoup plus agressive. C'est-à-dire que je pense que Nicole, dans le cadre de sa délégation, est assez d'accord sur le constat de démission de l'État, tu l'as très bien rappelé, et en même temps aujourd'hui rappelé qu'avec d'autres administrations, comme le Conseil général concernant les collèges, le Conseil régional concernant les États, les lycées, on a besoin de travailler aussi sur les structures des établissements et afin de voir comment aujourd'hui s'opère ce qui marche de moins en moins bien à Saint-Ouen, à savoir la mixité à l'école. Aujourd'hui, l'école à Saint-Ouen souffre de plusieurs choses. Souffre d'abord, effectivement, tu l'as très bien rappelé, d'un abandon de l'État et de problèmes criants. Aujourd'hui, on voit effectivement les parents d'élèves qui sont constamment mobilisés contre à propos des non-remplacements d'instituteurs. Le député Bruno Leroux a interpellé le gouvernement à ce sujet à l'Assemblée nationale en rappelant que rien que sur la ville de Saint-Ouen, c'est plus de 2000 journées qui n'ont pas été remplacées, soit l'équivalent de plusieurs semaines d'absence de classe pour les élèves en cours préparatoire à Paul Langevin. Donc effectivement, rien que ça, plus la suppression des RAZ, plus la suppression des aides, ça montre bien qu'aujourd'hui, on est dans une logique où l'État abandonne certains jeunes qui en ont peut-être plus besoin que d'autres. En même temps, force est de constater aujourd'hui qu'il nous faut faire le constat de toutes les aides que la ville apporte, aussi bien aux associations qu'aux activités périscolaires, qui sont des activités qu'aux activités périscolaires municipales. Aujourd'hui, on a besoin réellement de se poser la question de voir comment le périscolaire, comment l'aide aux devoirs, par exemple, comment l'aide aux associations est active, est en situation d'aider les jeunes à sortir d'un certain marasme scolaire afin d'enrayer la spirale de l'échec. Les chiffres qui nous sont fournis sont assez, non pas dans cette délibération, mais que certains ont connus et qu'il faudrait peut-être discuter dans un cadre plus large, pourquoi pas une réunion publique ou pourquoi pas un conseil municipal extraordinaire ou d'autres thématiques sur l'éducation et la réussite pour tous. On a déjà initié Explora Jeunes, on pourra très bien essayer de s'apercevoir pourquoi avant d'envoyer les jeunes travailler ou chercher de l'emploi, effectivement, quel est le problème d'orientation et de formation qui se passe largement en amont. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des débats vraiment clivants au sein de la majorité municipale et au sein de ce conseil. On n'est absolument pas d'accord sur certaines thématiques, sur la scolarisation des moins de 3 ans. Je pense que d'autres y reviendront après moi. On n'est pas non plus tout à fait persuadé et convaincu qu'aujourd'hui, l'école souffre des mêmes maux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'abandon de l'État, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie déperdition de certains et un certain abandon de l'école à Saint-Ouen par différentes classes sociales qui fait qu'aujourd'hui, la mixité ne fonctionne plus. Et effectivement, il est fort regrettable de constater aujourd'hui que pour avoir accès à une école de qualité, de plus en plus de personnes se sentent obligées, pour des mauvaises raisons, et je le pense vraiment aussi bien en tant qu'enseignant qu'en tant que parent, d'envoyer leurs enfants dans le privé, dans d'autres villes. Et en même temps, c'est un phénomène général qu'il faut vraiment aborder pour expliquer comment certains collèges sont de fait ghettoisés par ces problématiques. On aurait aimé quelque chose de beaucoup plus volontaire qu'un observatoire. Pourquoi pas proposer directement de travailler sur les structures des établissements et sur le constat du périscolaire afin de proposer effectivement soit des classes peut-être pilotes, des structures expérimentales au sein du collège Jean Jaurès par exemple. Ça a été le cas il y a quelques années, notamment avec l'ouverture d'une deuxième langue dès la sixième. Je pense qu'aujourd'hui cette question du vivre ensemble, de la mixité sociale, elle passe obligatoirement par l'école et il faut qu'à Saint-Ouen l'école redevienne l'école de la réussite pour tous et que chacun y ait sa place. Donc nous voterons cette délibération. Nous considérons que l'Observatoire de la scolarité et de la réussite scolaire est un premier pas. On la vote, cette délibération, avec un intérêt certain parce qu'enfin, la municipalité reconnaît que l'école va mal à Saint-Ouen et qu'on ne peut que se féliciter de cette démarche. Et en même temps, nous serons vigilants, mais sans aucune agressivité, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, l'état justement de l'école doit nous amener à poser des questions beaucoup plus novatrices et beaucoup plus importantes sur les solutions à amener. Donc voilà, un vote pour avec une vigilance et puis peut-être quelque chose de beaucoup plus expérimental. Je vous remercie.
Yes, Kemash.
Je crois que ça a été dit tout à l'heure par notre collègue William Delannoy. Il y a toujours des critiques à la fin, ça vote pour. J'ai envie de dire que pour bon nombre d'arguments, j'aurais voté contre par rapport à ce qu'a pu nous dire Henri Le Lorrain. Parce que comme lui, je partage le fait que l'Observatoire, ou alors peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais que ce n'est pas là-dessus qu'il faut se baser. Je crois qu'à Saint-Ouen, nous avons fait le constat en tant qu'élus, mais aussi en tant que parents, et pour certains en tant que parents d'élèves, qu'il y a effectivement un échec. J'ai l'impression que cet observatoire est une structure de plus pour créer un emploi, page 52 tout en haut, cadre A. J'ai pas l'impression que ce soit bien sérieux. Et je m'interroge sur la rapidité avec laquelle cette municipalité, cette majorité aborde des problèmes essentiels comme l'éducation et l'école à Saint-Ouen. Alors je suis content qu'on puisse aborder ce sujet aujourd'hui. Alors nous sommes en fin d'année, c'est peut-être le moment de préparer une bonne année scolaire. Et moi je suis de ceux qui pensent que l'action vaut mieux parfois que des réactions qu'on aurait pu avoir il y a fort longtemps. Moi je ne suis plus de ceux qui disent qu'il faut observer, analyser, réfléchir. Je crois qu'il y a urgence à agir et à faire. Et je pense que le conseil municipal que nous sommes, avec les citoyens de cette commune, peuvent réfléchir d'ores et déjà ce qui peut être fait à la rentrée et ne pas attendre une année de plus. Permettez-moi de vous rappeler aussi que si les ZEB sont créées, elles sont créées aussi parce qu'il y a des chiffres et des statistiques qui ont été faites, et qu'à partir de là, nous avons déjà bon nombre d'éléments qui peuvent nous dire qu'il est temps d'agir plutôt que de réfléchir. Alors, Madame Amédro, peut-être qu'elle nous donnera l'utilité de cet observatoire de la scolarité, de la réussite scolaire. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit quelque chose de positif. Et j'inviterai Madame Amédro à aller voir sa ville voisine, la ville de Gennevilliers, on en parlait tout à l'heure, dans laquelle ils ont mis en place le programme de réussite éducative, loi Borloo. Je vais vous dire que c'est quelque chose qui fonctionnait relativement bien. Et je voudrais poser une question à Madame Amédro. Si demain l'État, au travers du préfet, venait à vous proposer à titre expérimental son aide concernant la mise en place de ce dispositif, est-ce que vous seriez prêt à l'accepter au-delà des divergences idéologiques que vous pouvez avoir avec le gouvernement? Voilà la question que j'aimerais vous poser. Et puis, il y a des choses qui m'ont interpellé quand même. C'est que vous avez dit tout à l'heure, je ne me fais pas d'illusions. Alors, pourquoi vous le faites, Madame Amédro? Si vous n'avez pas d'illusions, arrêtez de perdre du temps, arrêtez de nous faire perdre du temps et de l'argent. Je crois que tout à l'heure, notre collègue Delannoy a parlé des priorités et a parlé des aspects budgétaires. Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. Et moi, je vous invite à nous dire qu'est-ce que vous nous proposez pour la rentrée scolaire. Permettez-moi de vous rappeler que vous avez refusé aussi aux membres de l'opposition d'être présents dans ces groupes scolaires et que vous pensiez qu'il n'était pas opportun de nous faire participer à la vie des écoles et à la vie de nos enfants dans cette commune en pensant que vous alliez prêcher la bonne parole au sein des écoles. Je m'étais justement à ce sujet inquiété des dérives politiques au sein des établissements scolaires. Je crois qu'il y a un moment où il y a des lieux où il ne faut pas faire trop de politique, où il y a des lieux où il faut trouver, on va dire, une certaine cohérence et une certaine complicité avec toutes les composantes de la société, parce que nous sommes tous sur le même bateau. Et moi, j'ai l'impression que ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Ce sont les pauvres gens qui sont obligés de rester là où ils sont dans les établissements qui chutent de plus en plus et qu'il y a bon nombre de gens qui malheureusement mettent leurs enfants dans le privé et même au sein de ce conseil municipal, qu'il y a des enfants qui passent le périphérique et qui ont la chance de pouvoir aller faire un tour de l'autre côté. Et moi, je m'interroge sur une chose en tant que parent cette fois-ci. Je prône l'école publique, mais est-ce que je vais sacrifier mes enfants à cause de la politique que vous avez mis en place depuis des décennies et des décennies? J'ai tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Monsieur Planck a l'air bien étonné, mais c'est un nouvel Audonien. Je suis de ceux, monsieur Planck, qui dit qu'il faut laisser ses enfants et il faut que toutes les composantes de la société à Saint-Ouen et que toutes les composantes de l'échelle sociale et des catégories socioprofessionnelles mettent leurs enfants à l'école à Saint-Ouen. Et quand je vois, et c'est flagrant dans les nouvelles habitations pour ceux qui habitent, il y a une partie des parents qui désertent l'école publique à partir du collège et qui préfèrent les écoles privées pour ceux qui en ont les moyens ou qui trouvent le moyen d'aller dans les écoles publiques à Paris. Et je trouve que ça, c'est désastreux pour nos enfants. Et la politique que vous avez menée, aussi bien par rapport au logement ou par rapport à l'éducation, c'est pour moi un échec total. Aujourd'hui, je m'interroge à titre personnel, et c'est des réflexions aussi que j'ai pu avoir avec d'autres gens et d'autres associations, sur que vont devenir nos enfants. Sommes-nous prêts à sacrifier nos enfants à cause de la politique que vous avez menée? Je m'interroge, et sincèrement, arrêtez vos observatoires et faisons les choses. Et moi, je suis prêt à ce qu'on puisse se rencontrer en dehors de ce conseil municipal pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire dès la rentrée, plutôt que d'avoir à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. D'autant plus, je vous invite à lire la convention pour certains. Quand je vois à la fin que cette convention peut être renouvelée tous les ans à l'occasion d'un bilan annuel, permettez-moi, Madame le maire, de vous rappeler que vous n'avez pas fait de bilan concernant la mandature précédente, que tout à l'heure on a parlé de la CLIS, j'avais envie de vous le dire, mais le micro ne m'a pas été donné à ce moment-là, que moi le bilan sur la présence de la CLIS de Madame Morgane Garnier et de Monsieur Paul Planck n'a pas été fait, que les bilans pour moi ce ne sont que des choses que malheureusement on ne voit pas ou qu'on ne voit très peu, et qui ne sont que des mots sur un papier. Mais nos enfants, Madame le maire, ils valent plus que ces bilans et ces mots. Et je ne sacrifierai pas mes enfants, et je ne conseillerai pas aux Audoniens à présent de sacrifier leurs enfants dans l'école que vous nous avez faite à Saint-Ouen. Et n'essayez pas d'aller extrapoler avec le gouvernement. Je pense que si les choses avaient été bien faites, on aurait pu largement permettre à ces nouveaux Audoniens qui étaient venus, à cette nouvelle population, de pouvoir s'inscrire dans la continuité dans un établissement scolaire. Mais il y a une somme de choses qui fait que ce n'est pas possible. On a parlé tout à l'heure de sécurité, de propreté. Il n'y a qu'à entendre les Audoniens pour comprendre qu'il y a un moment, c'est tout simplement pas possible. Et tout à l'heure, quand j'entends M. Karim Bouamran dire que M. Albert Kaledjian fait de la démagogie sur le prix du conservatoire, moi j'ai envie de dire, comme Albert Kaledjian, Karim Bouamran, je n'ai pas eu l'occasion, moi alias Kemach, personnellement je, l'occasion d'aller à l'observatoire, parce que tout simplement, c'est trop cher. Et je crois qu'il y a un moment, il y a un moment où quand on veut faire les choses... Non, Madame le maire, c'est lié tout ça. C'est lié, mais je vais vous dire pourquoi c'est lié, Madame le maire. Peut-être que je suis un peu trop long, mais moi, je ne vous ai pas demandé de passer deux heures tout à l'heure dans vos réflexions et dans vos communications. Oui, mais arrêtez de perdre deux heures en début de séance. Et vous verrez, il ne serait que 10 heures, là, si on faisait vite. Mais pour revenir par rapport au conservatoire, et c'est pour ça que je ne me suis pas permis de prendre la parole tout à l'heure, c'était pour faire un tiers groupé. Le conservatoire, c'est la culture, c'est le périscolaire. Seulement, il y a un moment où il faut que le budget municipal...
Non, mais on l'a compris, vos collègues l'ont expliqué, vous l'avez exprimé par votre vote.
Mais Madame le maire, permettez-moi de vous rappeler que Lias Kemach est président d'un groupe...
Il y a encore 3-4 autres collègues qui veulent parler, qui ont le droit de parler.
Lias Kemach...
Ça fait 10 minutes que vous nous expliquez votre propos, je pense qu'on l'a compris, il est légitime et argumenté. Je vous invite à faire court pour terminer.
Je ne suis pas de ceux qui ont parlé beaucoup ce soir, Madame le maire, contrairement à certaines personnes de la majorité. Donc permettez-moi de terminer mon propos, mais vous aimez me faire perdre la pédale, comme disait tout à l'heure Monsieur Albert Kaledjian. Tout ça pour dire que le périscolaire a son importance et que moi je suis de ceux qui disent qu'il faut mettre le paquet sur le périscolaire pour permettre à certains enfants de voir autre chose que la difficulté à la maison, parce que ça, c'est vrai, ça existe, c'est concret, c'est palpable, et je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont perdu leur repère et qui ont oublié d'où ils venaient. Mais je pense l'avoir dit à plusieurs reprises. Merci.
Monique Tesser.
Moi, je reviens à la charge. Je pense que l'extrapolation sur les politiques du gouvernement, elles sont absolument nécessaires, contrairement à ce que Lias Kemach vient de dire. Bon, d'autant plus que les moyens qui sont envisagés, parmi les moyens qui sont envisagés, on trouve l'augmentation des effectifs d'élèves par classe, on trouve la disparition de la scolarité des enfants de moins de 2 ans, ainsi que la suppression des postes d'enseignants spécialisés dans l'aide aux élèves en difficulté, et ceux des psychologues scolaires. Et moi, je trouve que ces moyens-là, justement, ils revêtent une importance capitale quand on parle de s'attaquer sérieusement à l'échec scolaire. Donc, les responsabilités, elles sont avant tout là-dedans. Bon, donc, et de toute façon, le programme que propose le gouvernement, c'est simplement une logique comptable. Et le rapport qui vient de sortir récemment, il n'apparaît que ça. C'est-à-dire, comme toujours dans cette société, on passe bien avant la préoccupation d'éduquer, on passe sur la préoccupation d'éduquer correctement et dans de bonnes conditions la jeunesse des quartiers populaires. Moi, c'est ça que je veux mettre avant. Maintenant, je pense qu'un observatoire, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'observer, il suffit de se faire entendre pour dénoncer une politique qui est en train de faire, de mettre en place une dégradation annoncée. C'est d'ailleurs pour ça que moi, personnellement, je m'abstiendrai sur ce rapport à cause de cet aspect du problème.
Karim Bouamrane.
Plusieurs choses. Je pense que la synthèse à l'écoute n'est pas innée, ça se travaille. Donc lorsque je parlais du conservatoire, si je n'ai pas justement le caractère démagogique de M. Calédian, je revenais simplement sur son numéro de claquette annuel qui consiste à revenir sur ses origines arméniennes ou ses origines ouvrières. Alors je veux bien, lorsqu'on fasse preuve de démagogie en disant effectivement le prix du conservatoire peut être peu accessible pour des familles populaires, mais je l'invite à voter chaque année, depuis 15 ans, pour un budget qui favoriserait justement les classes populaires, ce qu'il ne fait pas depuis 15 ans. Petite parenthèse. Concernant l'Observatoire, dans la continuité de ce qu'a évoqué Henri Le Lorrain,
Non, monsieur Kemach, c'est bon, là. On vous a assez entendu.
Si tu m'écoutais, tu verrais que je suis pas en totale opposition avec une partie de ton exposé. Une partie. Je suis dans la continuité de ce que disait Henri Le Lorrain et pour une fois, je veux dire Monique Tesser, je partage justement l'aspect macro-politique. Effectivement, et là je le vois depuis plusieurs années, on voit la dégradation d'une politique de droite dans les conseils d'école. On le sent. 80% des absences ne sont pas renouvelées. On voit les classes en surcharge. On voit les conséquences des profs, des jeunes profs qui n'ont pas eu tout le transfert de compétences nécessaire. On le ressent. Ça, c'est un fait. Ensuite, il y a un élément que je partage et qui, à mon sens, est une des mamelles fondamentales pour la cohésion sociale de la ville et de l'avenir de nos écoles publiques, c'est cette mixité sociale. Je partage totalement cette idée-là. Alors après, quand on parle de mixité sociale, de quoi on parle concrètement ? De quoi on parle ? Aujourd'hui, on a malheureusement une paupérisation du fait d'une politique de droite violente sur les classes les plus populaires. On a une précarisation. On a, pour des raisons psychosociologiques, sociologiques, une recrudescence, ou plutôt une croissance forte des familles monoparentales. Alors quand vous voyez que ces familles-là constituent, en moyenne, sur une base 100, 70% de la population, il est évident que leur principale préoccupation, c'est pas de se dire « est-ce que le petit a fait ses devoirs ou est-ce que le petit a eu des bonnes notes ?» C'est « qu'est-ce qu'on va manger le soir ?» Et ces familles-là sont de plus en plus pauvres. Ça, c'est le premier constat. Maintenant, quelle est notre marge de manœuvre, nous, en tant que ville ? Évidemment, on ne peut pas augmenter tous les salaires. Évidemment, on ne peut pas contrer à nous seuls la politique de chômage. En revanche, je reste convaincu que depuis 30 ans, 40 ans, une de nos fiertés, c'est justement tout l'investissement social qui a été fait. Nicole l'a évoqué, Henri a rebondi là-dessus, et ça, c'est ce qui a permis justement de faire en sorte que l'éducation populaire ait une espèce de prééminence au sein de cette ville. En revanche, on ne peut pas avoir aujourd'hui un retour sur investissement social avec une frange de la population paupérisée aussi forte. Moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, 70% de CSP moins, c'est-à-dire des classes populaires et des classes moyennes, ne permettent pas d'assurer une cohésion de l'école publique. Parce qu'aujourd'hui, le constat est très simple. En sixième, et là, il faut arrêter l'hypocrisie, les éléments moteurs se tirent dans le privé ou dans le public lorsqu'ils ont les pistons. Donc, on ne voit pas comment, à ce rythme-là, on pourra assurer l'avenir de l'école publique. Question, comment faire en sorte que les catégories, on va dire, intellectuelles, catégories socio-professionnelles supérieures, susceptibles de justement de tirer nos écoles vers le haut, restent ? Ça, c'est un des enjeux. Ça, c'est une des questions. On va avoir, dans les 15 prochaines années, plus de 50% d'augmentation de notre population. On est actuellement à 45 000, 40, 43 000, on devrait arriver à 60 000 approximativement. Donc une des questions, c'est de savoir comment avoir un équilibrage sociologique certain pour faire en sorte que notre investissement social soit le plus efficient. Et je pense que l'école est un de nos enjeux, et je pense que l'école est un des pactes républicains qui nous permettra d'avoir justement cette notion d'égalité de droit qui a été évoquée dans l'exposé de Nicole.
Oui, c'est forcément un sujet très intéressant et qui nous donne envie de prendre la parole les uns et les autres et malheureusement d'allonger la séance de ce conseil. Mais je pense que c'est nécessaire parce que quand j'entends toutes les inepties qui sont racontées dans les bancs de la majorité, moi j'ai envie de dire, Ça fait, comme toi, Karim, 15 ans que je suis élu, comme vous, Nicole, et pendant ces 15 années, il y a eu des gouvernements. Ah bon ? Moins que nous ? Ah, excusez-moi alors, vous êtes à moitié responsable alors. Donc, pour vous dire tout simplement que pendant toutes ces années, il y a eu différents gouvernements. Aujourd'hui, c'est simple, c'est un gouvernement de droite. Alors c'est facile de dire que ça ne va pas parce que c'est la faute de la droite. Mais quand il y avait Lionel Jospin, il y avait aussi un exode des Audeniens. Non, mais il y avait peut-être pas de suppression, il n'y avait peut-être pas cette politique que vous décriez. Mais pourtant, si vous aviez créé il y a 15 ans un observatoire de l'exode des enfants de Saint-Ouen, vous vous rendrez compte que depuis 15 ans, les gens mettent leurs enfants de l'autre côté du périphérique. Et ce n'est pas une question de méthodologie gouvernementale, c'est que tout simplement, c'est un échec de l'éducation nationale. Et c'est contre cela qu'il faut se battre tous ensemble. Parce qu'il y en a peut-être marre de s'apercevoir que cette éducation nationale française, tant décriée, elle ne fonctionne plus. Et elle ne fonctionne plus parce que tout simplement, on veut remettre des rustines sur des pneus qui fuient de tous les sens. Donc moi, je suis désolé. On peut dire que c'est de la faute de la gauche, que c'est de la faute de la droite, mais arrêtez. Et puis votre politique ici, comme l'a dit Ilias, vous avez une part de responsabilité. Quand les jeunes ne peuvent pas trouver les établissements scolaires dignes de ce nom, quand vous avez une population que vous avez fait venir avec de nouvelles constructions et qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer et à mettre leurs enfants dans les écoles, alors que ces gens-là sont de gauche, c'est quand même dramatique pour eux. Quand vous êtes de gauche, vous êtes obligé de mettre votre enfant dans une école privée. Alors imaginez-vous, en plus, il faudrait peut-être voter à droite en plus. Vous savez ce qu'ils font, ces gens de gauche, quand ils viennent à Saint-Ouen ? À un moment, ils se barrent. Ils vont partir. Et la ville avait encore se paupériser encore plus. Ils vont aller dans une ville de droite, où il y aura de la propreté, de la sécurité, des beaux établissements scolaires, et ils voteront à gauche, et ils se feront plaisir. Mais ici, ils ne peuvent pas. Mais ici, ils peuvent y aller, madame. Tous ceux qui ont acheté sur Saint-Ouen, ils peuvent y aller. Par contre, les classes populaires, celles que vous auriez dû défendre, ils ne peuvent pas y aller. Elles, c'est, vous savez, celles qui sont là, ils sont assignés à résidence. Voilà, c'est une prison ici pour eux. Hein ? Et alors quoi ? Et alors quoi ? Quand je vous ai entendu parler, madame Amédro, mais cette maxime que vous avez eue, mais regardez votre personnel. Quand vous vous dites que le MEDEF, que tous ces gens-là profitent du système, mais quand je vois votre personnel qui vient à des entretiens et qui se met à pleurer parce qu'ils sont en souffrance, mais regardez votre personnel, vous êtes pire que le MEDEF. Vous êtes les plus mauvais employeurs qu'on peut avoir. Voilà. Mais ça c'est la vérité. Non, c'est pas la... Mais ça vous dérange ? Ça vous dérange qu'on vous dise vos quatre vérités ? Parce que vous ne pouvez pas botter en touche, là, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute du gouvernement. C'est vous l'employeur, c'est vous qui êtes en train de mettre en souffrance des gens. Parce que vous êtes incapable de les écouter, parce que c'est toujours la faute des autres.
Bah, franchement, il peut y avoir beaucoup de contradictions dans le débat, mais je pense que s'il y avait qu'à Saint-Ouen que l'école posait problème, ça se saurait. Et on n'aurait pas le débat de ce soir. Et qu'il n'y aurait pas autant de gens non plus qui souhaiteraient travailler non seulement dans la fonction publique, mais à la mairie de Saint-Ouen, parce que je peux vous dire par ailleurs que les dizaines de demandes pour travailler à la mairie de Saint-Ouen, de demandes d'Audoniens, alors n'enlève pas la souffrance d'un certain nombre d'agents, vous l'avez dit, mais je vous appelle à un peu de mesure dans vos propos, parce que ça correspond absolument pas, par ailleurs, à la réalité qui est nettement plus, pour le moins, complexe. Rémi Farjas.
Oui, j'essaierai d'être le moins long possible, bon, parce que ce débat est cependant intéressant, effectivement. Et j'interviendrai sur une expression, je dirais, qui a été employée à plusieurs reprises, la fameuse mixité sociale. Alors, voilà quelque chose qui a été inventé il y a 15-20 ans et qui exprimait à l'origine le souhait que puissent vivre dans des villes réservées à certaines CSP, comme dit Karim, certaines couches plutôt aisées, c'est pas grave, certaines couches aisées, des personnes, des familles qui l'étaient beaucoup moins. En fait, ça ne s'est guère traduit dans ce sens, et aujourd'hui, cette expression, je ne parlerai pas de notion parce que ça ne permet même pas de parler de la réalité. Cette expression, en fait, se retourne justement contre les catégories les plus pauvres et vient justifier des attitudes de ségrégation. On sait que la ségrégation est mise en place par les classes les plus aisées dans l'espace urbain, dans toutes les institutions, particulièrement l'école, et le modèle de consommation tend à l'imposer également à des classes, je dirais, de cadre supérieur, à des classes moyennes qui ne se rendent pas toujours compte qu'elles aussi sont peut-être menacées économiquement dans l'avenir. Tout cela pour dire que je m'inquiète, même si j'entends certains arguments, même si je peux essayer de les comprendre, je m'inquiète en fait qu'on risque de retourner par ce débat contre ceux qui subissent le plus sévèrement la crise, qu'on risque de le retourner donc contre eux en les rendant coupables de ce qui se passe. Je rejoins l'introduction de Nicole, je rejoins le propos de Monique lorsqu'elle dit que c'est l'abandon des moyens qui sont donnés à l'école publique par l'État qui est responsable de tout cela. Les enfants les plus pauvres, et là aussi j'appelle à faire attention aux caricatures, mais en supposant en effet qu'ils accumulent peut-être des handicaps au départ, ont besoin de cet accompagnement renforcé. Et si dans l'histoire, l'école publique a rempli en grande partie sa mission jusque peut-être au dernier quart du siècle dernier, c'est bien parce qu'elle a su mettre les moyens, regarder ce bâtiment qu'on a derrière, on en a plusieurs, réimaginer l'investissement que ça a représenté. Dans toutes les communes de France, il y a eu des réalisations comme celle-ci. Eh bien, voilà dans quoi nous ne sommes plus aujourd'hui, et c'est bien là le problème. Et il y a certainement de la part des gouvernements de droite un abandon délibéré de l'école publique. Alors, tout ça dans un contexte où la classe ouvrière n'est plus effectivement ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Donc, c'est une classe sociale qui se décompose. Tout cela dans un monde où il n'y a plus de perspective d'avenir. La promotion sociale aujourd'hui, personne ne peut l'espérer, et c'est un changement générationnel très important sur plan qualitatif. Donc ça amène effectivement les gens à s'opposer, les classes moyennes, à ne pas vouloir ressembler aux pauvres, mais pourtant parce qu'elles craignent d'y tomber. Alors faisons attention dans ce que nous disons. Je ne rejette pas tous les arguments qui ont été présentés. Je trouve qu'il y a eu dans l'exposé d'Henri Lelorin, y compris dans celui de Karim, avec lequel j'ai déjà eu des débats plus
chaleureux.
Donc, plus, je dirais, en l'occurrence, plus tendus sur cette question. Il y a eu donc un effort, en effet, pour voir plus large, pour essayer de prendre les différentes contradictions ensemble. Mais attention, quand nous parlons de mixité sociale, de quoi nous parlons ? Attention à ne pas renforcer cette offensive idéologique de ségrégation des plus pauvres.
Bien, Nicole, avant qu'on passe au vote.
Oui, évidemment que le débat est passionnant et qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question. Moi, je voudrais réaffirmer plusieurs choses. D'abord, quand on parle du temps scolaire et de l'école, que ça nous plaise ou non, on parle de l'éducation nationale et de ses responsabilités en termes de moyens et en termes, enfin, de moyens humains et de moyens pédagogiques. Force est de constater que depuis de trop longues années, les décisions qui se prennent, et nous sommes sommés en tant que collectivité, de reporter ou de faire de l'école en dehors du temps de l'école, ce qui est quand même assez extravagant. Donc moi, je pense que quand on est dans les débats sur les acquisitions, sur les connaissances, c'est sur le temps scolaire que les questions se posent, parce que c'est là, si on y met les moyens. Et quand je dis les moyens, je n'ai pas que la visée du nombre d'élèves par classe, même si c'est important. Pour moi, ça va au-delà dans la réflexion pédagogique, les choix qu'on fait, y compris les postures au Conan. Moi, je mène des débats avec des professionnels, par exemple, où je vois bien mon parti pris, c'est de dire que tous les enfants sont capables. Et ce n'est pas pour faire bien ou pour un affichage, j'en suis convaincue. Je vois bien que ça, même dans le monde enseignant, ce sont des choses qui ne vont plus de soi, alors qu'elles allaient de soi il y a 25 ans en arrière. On pense qu'à Saint-Ouen ou dans les villes populaires, on pourrait se contenter du minima de connaissances. C'est quelque chose que je conteste et je pense qu'il faut avoir des exigences et mettre la barre le plus haut possible à Saint-Ouen comme dans les quartiers bourgeois. C'est comme ça qu'on tire vers le haut et on a des expériences, en tout cas, où ça marche. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc tout ça pour dire que je n'ai aucun problème pour discuter du projet éducatif municipal sur le périscolaire. D'ailleurs, il est reconnu comme un projet éducatif de haut niveau et très, très intéressant par les partenaires, par les familles, par les professionnels qui ne manquent pas de vouloir venir travailler dans le service de l'enfance notamment. Mais là, nous parlons de ce qui est la responsabilité de l'éducation nationale. Et dans ce que nous souhaitons, y compris analyser avec les partenaires, il y a l'intervention municipale sur le temps scolaire. Parce qu'on fait beaucoup de choses. Et ça, on a besoin de comprendre si ce qu'on fait, c'est au bon endroit, au bon moment, etc. Et quand je dis que je ne me fais pas d'illusions, je ne suis pas quelqu'un qui renonce, les difficultés sont grandes. Mais évidemment qu'il y a le temps de la réflexion, de la collecte des éléments et de la compréhension. Mais en tout cas, on n'a jamais cessé de prendre des initiatives et de résistance avec les parents qui le souhaitaient, notamment ceux qui ont des enfants de moins de 3 ans et qui ne rentrent plus dans cette ville à l'école quand les parents le souhaitent. On a pris des initiatives sur le non-remplacement des enseignants. On prend un certain nombre d'initiatives d'interpeller le rectorat, le ministère. On n'est pas inactif sur les questions d'action et de contribuer à notre place avec à la fois les enseignants et les parents de créer les conditions d'améliorer ce qui doit l'être. Donc, même si on peut faire des choses avant l'été, vous voyez, je pense qu'il faut pas s'en priver.
Excuse-moi Dominique, j'avais pas juste Dominique et après on vote.
Oui, quelques mots. L'Observatoire de la réussite scolaire, s'il vise à mettre autour de la table des acteurs de la communauté éducative et les services de la municipalité, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, pas seulement, bien sûr, pour observer, mais surtout pour évaluer d'abord les dispositifs existants, puisque, comme le disait Nicole, comprendre ce qu'on fait et si, effectivement, c'est efficace, ça me semble fort important. Et puis, je pense qu'on a vraiment à échanger avec eux sur comment on peut stabiliser les équipes pédagogiques, parce que certes, il y a un travail au sein des écoles et des équipes pédagogiques, mais je pense qu'en tant que collectivité territoriale, on peut aussi réfléchir à travers le logement des enseignants, par exemple. Je peux vous dire, je parle de ce que je connais. Au niveau du 92, il y a des logements préfecture qui sont réservés aux enseignants dans toutes les communes. C'est pas rien et c'est intéressant de le savoir. Alors, peut-être faudrait-il qu'il y en ait plus. Donc, stabiliser les équipes pédagogiques, moi, ça me semble important. Rendre aussi les écoles et les établissements attractifs auprès des familles audoniennes à travers des projets d'école ou des projets d'établissement, ça aussi, on peut en discuter. On peut trouver des dispositifs et des moyens qui permettraient de les rendre le plus optimal possible. Et je pense que tu parlais aussi de périscolaire. Je crois qu'il faut qu'on table effectivement sur un niveau d'encadrement et d'accompagnement pour le périscolaire qui soit vraiment le meilleur possible. Je pense que d'ailleurs le dispositif de réussite éducative qui a été évoqué à un moment dans la soirée peut peut permettre d'y arriver. Donc il faut pas, je crois que ça serait aussi intéressant qu'on en parle. Et enfin, dernière chose, quand vous parliez des moins de 3 ans, moi je tiens à ce qu'on soit prudent par rapport à la scolarisation des moins de 3 ans. Des enfants de 2 ans ont des besoins psychomoteurs et psychologiques qui n'ont rien à voir avec les 4-5 ans. Je ne suis pas sûre que l'école maternelle telle qu'elle est aujourd'hui aménagée puisse bien leur correspondre. En plus, l'ouverture qui avait été faite en direction des 2 ans était pour favoriser la construction du langage chez certains enfants. Or, on sait très bien qu'à cet âge-là, la construction du langage se fait en situation duelle. Et à partir du moment où on sait qu'elle se fait en situation duelle, on ne peut pas favoriser des grands groupes d'enfants pour justement favoriser cette construction du langage. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse aussi, et peut-être qu'au sein d'une municipalité, il y a des choses à créer, certainement, que des petites structures alternatives existent entre les crèches et l'école maternelle.
J'indiquais que Dominique était la dernière donc à prendre la parole.
Je voulais juste
faire
une parenthèse.
Non, je suis désolée, monsieur Kemach.
Pour quelle raison, madame le maire ?
Il nous reste 2 délibérations pour finir ce conseil.
Je ne prendrai pas la parole si vous voulez, madame le maire.
En sachant que.
Je ne prendrai pas la parole après, mais laissez-moi.
Il y a un large débat sur cette délibération. Et donc maintenant, donc, on passe au vote. Donc par rapport à la création de l'observatoire, qui est contre ?
Vous me retirez ce droit, cette demande de parole.
Donc, il y a pas de. Si, il y a un vote contre et
un
mandat.
Contre l'Observatoire. Voilà,
deux votes contre.
Qui ne sert à rien.
Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc, une avec Monique Tesser, Noureddine Senadji et son mandat, Brigitte Zucchiati, Marina Venturini qui a le mandat de M. Delannoy. Voilà, les autres collègues votent pour.